Bonjour à tout le monde. Apparemment, c'est un week-end rempli d'émotions, de joie, de retrouvailles. Et nous rendons grâce à Dieu pour tous nos frères qui sont revenus, qui étaient à Québec aussi, qui étaient absents dimanche dernier. Gloire à Dieu pour nos visiteurs aussi qui nous visitent. Notre sœur Daisy qui est là aujourd'hui, malgré toutes ces perturbations avec la STM. Donc, c'est une joie d'être là aussi, surtout pour le jour du Seigneur, ce jour qui était mis à part, comme on a parlé mercredi. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans Osée. On a fini Osée. Et donc prochainement, on va être sur le livre des Actes. Donc je vais demander vos prières également. Et aujourd'hui, c'était un message que j'avais prévu prêcher à l'église de la capitale l'été dernier, quand j'ai pas pu m'y rendre. Je me suis dit que ça se présentait bien à nous aujourd'hui. Et puis, donc voilà. Donc, nous allons lire ensemble dans l'épître de 2 Jean. Donc, c'est tout le chapitre, chapitre 1, les 13 versets. Et j'ai intitulé ce message « Marcher dans la vérité et dans l'amour ». Nous allons lire pour la gloire de notre Seigneur. Et nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Donc 2 Jean, chapitre 1, des versets 1 à 13, nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. L'ancien à Kyria l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, et ne déclare pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». Car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. Mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te salue. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Excusez-moi. Dans la vie chrétienne, il existe une tension réelle et sacrée que seul l'Évangile peut résoudre. Celle de tenir ensemble la vérité et l'amour. Deux vertus qui semblent parfois s'opposer, mais qui, dans le cœur de Dieu, ne se contredisent jamais. Nous le voyons magnifiquement dans un épisode que nous connaissons tous bien, l'épisode de la femme adultère, dans Jean 8, versets 1 à 11. Donc des versets 3 à verset 5, nous lisons « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Et donc, ces scribes et ces pharisiens viennent avec la loi, sans amour. La vérité sans amour. Et Jésus, lui, il ne rejette ni la loi, mais il ne rejette non plus la compassion. Et prenant ces paroles qui résonnent à travers les siècles, donc les versets 6 et verset 7, « Mais Jésus s'étant baissé, écrivant avec le doigt sur la terre, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Un à un, les accusateurs s'en vont. Alors Jésus se tourne vers la femme et dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Dans cette scène, nous voyons la vérité et l'amour marcher côte à côte. La vérité, car Jésus ne nie pas le péché, il n'a pas nié le péché de cette femme. Et en ce qui concerne l'amour, car il offre le pardon et la grâce à cette pécheresse. Christ ne choisit pas entre vérité et amour, mais il incarne les deux. Il incarne la vérité, il incarne l'amour à la fois. Le Christ ne détruit pas la loi par sa compassion, mais il montre que la miséricorde de Dieu accomplit ce que la loi ne pouvait pas produire, c'est-à-dire un cœur qui est transformé. Et donc cette scène éclaire toute la lettre de 2 Jean. L'apôtre écrit à une communauté qui est fidèle. On parle de Kyrie à l'élu et à ses enfants. Pour leur rappeler cette même tension évangélique. Aimer dans la vérité et demeurer dans la vérité avec amour. Et lorsqu'on revoit un peu le contexte ici, à l'époque de Jean, des faux docteurs troublaient les croyants. Nier l'incarnation de Christ. Certains chrétiens animés d'un amour sincère risquaient de tomber dans une tolérance sans discernement. D'autres, qui étaient zélés pour la vérité, manquaient de douceur fraternelle. Parce qu'ils avaient ce zèle pour la vérité, mais ils manquaient cette douceur fraternelle. Jean leur écrit, et il s'adresse à nous aussi, pour rappeler que la vraie maturité spirituelle ne consiste pas à choisir entre vérité et amour, mais à les unir en Christ. Et nous vivons dans un monde où l'amour est sentimental et aussi où la vérité est relative. Mais l'Église de Christ est appelée à refléter un autre modèle. Celui du Christ crucifié, en qui la vérité de Dieu et l'amour de Dieu se sont embrassés, comme on l'a lu dans le psaume 85, verset 11. Et c'est précisément le message de 2 Jean, le thème central ici, marcher dans la vérité et dans l'amour. Autrement dit, marcher dans la vérité pour ne pas se laisser séduire par le mensonge, marcher dans la vérité pour ne pas devenir froid et légaliste, marcher dans les deux, car c'est dans cette marche que se révèle la présence vivante du Christ crucifié. Voilà le cœur du message de cette lettre et le cœur du message pour notre Église également. Donc mon premier point vont être les 3 premiers versets. J'ai intitulé cette partie « L'amour véritable » qui est enraciné dans la vérité. L'ancien à Kyrie à l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité et l'amour. Et donc Jean ici ouvre sa lettre en se présentant comme l'ancien, non pour imposer son autorité, mais pour affirmer une paternité spirituelle, enracinée dans la vérité. Son amour pour Kyria et ses enfants, ici on parle un peu plus de l'église locale, Kyria et ses enfants, repose sur la vérité qui est partagée en Christ. L'expression que j'aime dans la vérité montre que la vérité est la sphère, le fondement et la mesure de l'amour chrétien. L'amour véritable n'existe que dans la vérité, il ne peut ni la précéder ni la remplacer. Le mot grec utilisé par Jean pour vérité, aletheia, désigne ici la révélation divine du salut en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et cette vérité n'est pas subjective ou relative, elle est objective, elle est éternelle et incarnée en la personne de Christ. Comme nous le lisons en Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ainsi, aimer dans la vérité, c'est aimer en Christ et selon l'Évangile. Samuel Waldron, dans son exposition à la 1689, rappelle que les chapitres, le chapitre 1, donc les deux premiers paragraphes, il affirme « La Sainte Écriture est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance, foi et obéissance salvatrice. » La vérité n'est pas le fruit de l'expérience humaine, mais de la révélation scripturaire des écrits, de la parole de Dieu. L'amour véritable doit donc se soumettre à la parole pour être authentique. Et encore Samuel Waldron continue en disant « Là où la vérité de l'écriture est négligée ou remplacée par des impressions personnelles, l'amour devient un substitut sentimental de la piété et l'Église perd sa direction. » C'est pourquoi Jean peut affirmer que la vérité demeure en nous. La vérité demeure en nous. Ce qui exprime la présence continue de la vérité dans le croyant par l'Esprit. La vérité n'est pas simplement connue intellectuellement, elle habite en nous et elle transforme nos cœurs. Elle transforme nos cœurs. Et Jean ajoute, « Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. » Tous ceux qui ont connu la vérité. La vérité de Dieu engendre un amour universel entre les croyants. La vérité de Dieu engendre un amour universel entre les croyants. Tous ceux qui ont connu la vérité partagent ce même amour fraternel, parce qu'ils ont eu même foi, un même Seigneur, un même Esprit. L'unité de la vérité engendre l'unité de cœur, comme on l'a lu à la lecture d'introduction. Et donc ici encore, Sam Waldron éclaire ce lien dans son explication du chapitre 26 de la Confession, où il écrit « L'unité de l'Église visible découle de la communion invisible de ceux qui partagent la vérité de Christ. » Il continue « L'amour mutuel entre croyants est le fruit et la preuve de leur union en la vérité de Christ. Ainsi, aimer les frères, c'est aimer la vérité que Dieu a implantée dans leur cœur. Ce n'est pas un amour général pour l'humanité, mais un amour spirituel enraciné dans la grâce de Dieu qui régénère, mais aussi qui unit. Cet amour s'étend à tous ceux qui connaissent la vérité, même à ceux que nous connaissons peu ou avec qui nous avons des différences sur des points secondaires. Je vais insister, on a des désaccords sur des points secondaires, pas primaires. Parce que lorsqu'on commence à toucher à la Trinité, par exemple, là, il y a un enjeu. Okay. Le voile ne doit pas pour nous être un sujet de division. Pas du tout. Mais lorsqu'on embarque sur des points qui sont primaires pour nous, comme on parle ici, l'incarnation de Christ, la Sainte Trinité, là on est dans une autre mouvance. La vérité nous relie plus profondément que les préférences personnelles. Tous les saints sont unis à Jésus-Christ, leur tête, par son esprit et par la foi, et ont ainsi communion les uns avec les autres dans son amour, ses grâces, mais aussi dans ses souffrances. Au verset 3, l'amour dans la vérité manifeste la grâce trinitaire. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ le Fils de Père, dans l'amour et la vérité. Jean invoque ici, en fait, implicitement la Trinité. Le Père, la source de la grâce, le Fils, le médiateur de la miséricorde, et l'Esprit qui est implicite ici, le dispensateur de la paix. Le tout dans la vérité et l'amour, donc deux réalités qui sont indissociables, qui découlent de la nature même de Dieu. La croix du Christ est le lieu où la vérité et l'amour se rencontrent. Comme le dit le psaume 85, verset 11, comme nous l'avons lu, « La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » L'amour véritable ne naît pas de l'effort humain, mais de la connaissance du Christ. C'est pourquoi Jean affirme que cette vérité demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Autrement dit, la vérité de Dieu produit, soutient et scelle l'amour entre les croyants. Mon deuxième point, les versets 4 à 6, marcher dans la vérité, c'est marcher dans l'amour. Jean exprime d'abord sa joie ici, qui est pastorale, en nous lisant que « J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité. » Cette marche, péripatéo en grec, évoque une conduite qui est constante, un style de vie façonné par la parole de Dieu. Il ne se réjouit pas d'une connaissance intellectuelle, mais d'une obéissance qui est incarnée. L'apôtre se réjouit de voir la vérité en action, non seulement dans la confession, mais dans la vie des croyants. Et c'est le reflet de la foi opérante par l'amour selon Galates 5, verset 6, où nous lisons « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » La foi salvatrice n'est jamais seule. Elle se manifeste toujours par des œuvres d'amour et d'obéissance comme fruit nécessaire d'une vie justifiée. Ainsi, marcher dans la vérité, c'est marcher dans la foi vivante, laquelle produit naturellement l'amour. L'obéissance devient donc le fruit naturel de la régénération. Dans le chapitre 13 de notre confession de foi sur la sanctification, les paragraphes 1 et 3, un petit résumé, nous lisons que « Ceux qui sont unis au Christ par la foi sont aussi renouvelés dans tout leur être. Et de cette union procède leur obéissance réelle. » Il continue plus loin, paragraphe 3. « Ainsi les saints croissent en grâce et perfectionnent leur sainteté. Dans la crainte de Dieu, ils désirent ardemment vivre une vie céleste dans l'obéissance évangélique et à tous les commandements que le Christ, le chef et roi de l'Église, leur a prescrits dans sa parole. » Et c'est précisément ce que Jean décrit ici. La vérité qui habite le croyant conduit à une marche qui est renouvelée. On ne peut pas avoir la vérité du Christ dans le cœur sans que cette vérité se traduise en amour dans la vie. Et Jean poursuit. « Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. » Ce commandement, dès le commencement, renvoie à Jean 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Ce commandement est nouveau par son contenu. Non par son contenu, parce que en Lévitique 19-18, on l'enseignait déjà. Mais il est nouveau par son modèle. Désormais, l'amour se définit à la lumière de Christ qui est crucifié. Le standard de l'amour n'est plus l'amour de soi, mais l'amour sacrificiel de Christ. C'est un amour sacrificiel. C'est plus l'amour de soi. L'amour fraternel ne trouve son sens que dans la croix. Ainsi, aimer comme Christ nous a aimés, c'est marcher dans la vérité de l'Évangile incarné. Au verset 6, nous lisons « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. » Ici, Jean inverse la logique du monde. Le monde définit l'amour comme un sentiment autonome, sans loi. Mais pour l'apôtre, l'amour est défini par la loi de Dieu. Aimer, c'est marcher dans les commandements de Dieu. La vérité de Dieu ne tue pas l'amour, elle structure l'amour. La vérité de Dieu nous aide à structurer l'amour que nous avons les uns et les autres. Et la loi de Dieu ne contredit pas la grâce. Elle en est l'expression vivante. Jean Calvin a écrit: l'amour est la forme de la loi. Ce n'est qu'en aimant selon la parole que nous accomplissons la loi du Christ. L'amour chrétien n'abolit pas la loi morale, il en révèle la beauté. Ce n'est pas un abandon de la norme, mais une adhésion joyeuse à celle-ci motivée par la grâce. L'amour n'est pas une alternative à la vérité. L'amour est la forme vivante de la vérité. Marcher dans l'amour, c'est marcher selon la loi de Dieu, mais avec un cœur transformé. Romains 8, verset 3 à 4, nous lisons: « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Marcher dans l'amour, c'est accomplir ce que la chair ne pouvait pas accomplir. Obéir par amour et non par contrainte. Marcher dans la vérité, ce n'est pas seulement prêcher la saine doctrine, mais vivre selon la doctrine, vivre selon elle. Une église qui aime dans la vérité manifeste Christ au monde. L'amour fraternel doit se traduire en obéissance concrète, dans la patience envers les frères, dans notre service, dans l'humilité, dans la réconciliation et dans le pardon aussi. Nous avons parlé des différents dons que nous avons ici dans la lecture d'introduction. Il y a de multiples dons dans l'Église. Le corps du Christ, c'est cette multiplicité de dons. Nous sommes différents. Nous avons différents arrière-plans. Chacun a un don pour chanter, un don pour accueillir aussi, pour ramasser des recueils, pour faire des gâteaux, pour faire de la cuisine. Chacun a ses dons. Il exerce ses dons avec son cœur parce qu'il a connu cette vérité et il la met au service du peuple de Dieu. Et nous devons prier et exhorter, nous supporter les uns les autres afin de glorifier notre Dieu et être reconnaissant pour tout ce que nous avons aussi. La discipline ecclésiale doit toujours être motivée par l'amour de la vérité. Reprendre un frère n'est pas contraire à l'amour. C'est une forme suprême d'amour. Laisser quelqu'un s'égarer sans correction, c'est manquer d'amour véritable. Jean unit ici trois vérités essentielles. La vérité fonde l'amour, l'amour exprime la vérité, l'obéissance prouve l'un et l'autre. Notre confession de foi, au chapitre 16, paragraphe 2 des bonnes œuvres, la formule ainsi. Ces bonnes œuvres faites en obéissance au commandement de Dieu sont le fruit et la preuve d'une foi vraie et vivante. Par elles, les croyants manifestent leur reconnaissance, fortifient leur assurance, édifient les frères, embellissent la profession de l'Évangile, ferment la bouche des adversaires, glorifient Dieu dont ils sont l'ouvrage, créent en Jésus-Christ pour cela même, afin qu'ayant pour fruit la sainteté, ils puissent avoir pour fin la vie éternelle. L'amour qui découle de la vérité n'est pas une option morale, mais le signe vital de la nouvelle naissance. Celui qui marche dans la vérité marchera dans l'amour, et celui qui marche dans l'amour demeure dans la vérité. Ainsi, marcher dans la vérité et dans l'amour, c'est marcher dans le Christ lui-même, car il est la vérité incarnée, mais aussi il est l'amour parfait. Amen. Mon troisième point, les versets 7 à 11, préserver la vérité avec vigilance et discernement. Jean introduit ici un contraste frappant après avoir parlé d'amour. Il dit, car plusieurs séducteurs se sont répandus dans le monde. Le mot grec « planos », séducteur, signifie littéralement celui qui fait dévier de la route. Il désigne des enseignants religieux qui, sous une apparence spirituelle, détournent les âmes de la vérité. Jean identifie ici une hérésie spécifique. Ceux qui ne confessent point Jésus-Christ venu en chair, c'est-à-dire le docétisme. Une forme précoce du gnosticisme niant la véritable incarnation du Christ. C'était cela qui détournait le peuple de Dieu. Ces faux docteurs enseignaient un Christ spirituel sans chair, sans croix. Toute erreur sur le Christ détruit la foi. C'est pourquoi Jean appelle ces hommes des antéchrists. Non pas seulement des ennemis de Jésus, mais des contrefaçons du Christ véritable. Et Jean en appelle à la vigilance spirituelle, la responsabilité de chaque croyant. Où il dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Veillez, ce verbe ici, est au présent impératif, c'est-à-dire une vigilance constante, que nous devons toujours avoir cette vigilance en continu. Jean exhorte à ne pas perdre le fruit du travail, c'est-à-dire les progrès spirituels, la fidélité acquise, les bénédictions de la communion dans la vérité. Il ne s'agit pas ici d'une crainte de perdre le salut, mais de perdre la récompense spirituelle, comme on le voit au verset 8. Celui qui tolère l'erreur compromet la pureté de la doctrine et la fécondité de son ministère. La vigilance doctrinale n'est pas une option pour les pasteurs et les membres. C'est un acte d'amour envers Christ et envers son Église aussi. L'indifférence doctrinale est une trahison spirituelle. Ce devoir appartient à tous, pas seulement aux anciens. Chaque membre est appelé à discerner ce qui est enseigné, à comparer avec l'Écriture, à refuser ce qui n'est pas conforme à la saine doctrine, selon Tite 1, verset 9. Et Jean va poursuivre au verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. L'expression ici, aller plus loin, signifie littéralement avancer au-delà de la limite fixée. Dans notre confession de foi, au chapitre 1, verset 6, affirme que tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire toute chose nécessaire à la gloire de Dieu, au salut de l'homme, à la foi et à la vie, est ou bien expressément consigné dans l'Écriture sainte, où il est contenu de façon nécessaire. Rien, à aucun moment, ne peut lui être ajouté, ni par une nouvelle révélation de l'Esprit, ni par des traditions humaines. Aller au-delà de la doctrine de Christ, c'est prétendre que l'Écriture n'est pas suffisante. Autrement dit, Christ n'a pas besoin d'être réinterprété. Christ n'a pas besoin d'être surinterprété. Et l'Église aussi n'a pas besoin d'être réinventée. Mais l'Église a besoin d'être ravivée par la même vérité éternelle. Parce que cette vérité n'est pas passagère. Le monde passe, mais la vérité de Dieu, elle demeure éternelle. Et ceci fait écho à 1 Jean 2, verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Ainsi, la fidélité chrétienne n'est pas une stagnation, mais une croissance dans la même vérité. Le verset 10 au verset 11, nous lisons que si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Je ne vous demande pas d'aller pas dire bonjour aux gens. Non. Et en fait, c'est que ce passage est souvent mal compris. Jean ne prône pas une hostilité qui est sociale ici, mais une protection ecclésiale. Jean prône la séparation spirituelle. L'amour fidèle ne soutient pas l'erreur. Le contexte ici est celui des missionnaires itinérants de l'époque. Accueillir un enseignant dans sa maison équivalait à l'endosser publiquement. Ainsi, recevoir un faux docteur, c'était le légitimer. Le salut ou la bénédiction exprimait une reconnaissance spirituelle. Jean dit donc, ne cautionnez pas l'erreur, car la neutralité devient complicité. C'est pas un pied dedans, un pied dehors. Non. La neutralité est source de complicité. Le discernement spirituel n'est pas le contraire de l'amour, mais son expression le plus mûre. L'amour accueille les pécheurs, mais la vérité rejette le mensonge. Et les deux ne s'opposent jamais dans le cœur de Dieu. La doctrine n'est pas une option théologique, mais une garde spirituelle pour nos âmes. Une garde spirituelle pour nos âmes. Exercer le discernement dans l'accueil des enseignements et des influences externes, les livres, les vidéos, les conférences et tous nos chants aussi doivent être sélectionnés à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons vivre la vigilance comme un acte d'amour. Préserver la vérité n'est pas un réflexe d'orgueil, mais de compassion. Nous nous protégeons et nous protégeons les brebis aussi. Une église mûre n'est pas celle qui fait beaucoup d'activités, mais celle qui discerne beaucoup de vérités. Et donc pour finir, en conclusion, les versets 12 et verset 13. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. Mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu te salue. Et Jean termine ici sa lettre par une note profondément personnelle. La vérité chrétienne n'est pas une idée qui est abstraite. Elle s'incarne dans la communion réelle des croyants. Le Christ, qui est venu en chair, se manifeste maintenant dans l'amour concret de son peuple. La vérité devient vivante lorsque les enfants de Dieu se rencontrent, prient ensemble, s'aiment et marchent dans la lumière. L'incarnation du Christ n'est pas seulement un article de foi, mais un modèle pour l'Église. La vérité doit prendre chair dans notre vie communautaire. C'est pourquoi Jean désire voir les frères face à face et leur parler de vive voix. La vérité s'accomplit pleinement dans la présence fraternelle, non dans la distance. Il sait que les lettres enseignent, mais que la communion édifie. Et c'est un rappel pour notre génération numérique. Les messages et les médias peuvent instruire, mais rien ne remplace la communion réelle des saints. Rien ne remplace la communion réelle des saints. Et dans cette communion, c'est là où la vérité et l'amour se rencontrent dans le Christ. Et Jean ajoute, afin que notre joie soit parfaite. Une joie pleine, une joie accomplie. Une joie qui n'est pas partielle. Cette joie ne vient pas du confort matériel, mais de la fidélité spirituelle. Et cette joie ne se limite pas au pasteur, c'est la joie de toute la communauté des fidèles. La joie d'aimer dans la vérité, la joie de garder la parole, la joie de résister à l'erreur, la joie dans notre service et la joie de vivre ensemble sous la Seigneurie de Christ. La joie chrétienne n'est pas un simple sentiment heureux, mais c'est le fruit de la persévérance dans la vérité et dans la communion aimante des croyants. Ainsi, la fidélité doctrinale ne rend pas l'Église rigide, mais elle la rend joyeuse. La vigilance ne tue pas l'amour, elle le purifie. Et la vérité ne divise pas les vrais enfants de Dieu, elle unit dans la joie de Christ. Frères et sœurs, ce que Jean adresse ici à Kyrie Alleluia vaut aussi pour nous, membres de l'Église réformée baptiste de la Trinité. Marcher dans la vérité, c'est demeurer fermement attaché à la parole infaillible de Dieu. Marcher dans l'amour, c'est laisser la vérité se traduire en patience, en service pour l'Église. Nous servons de différentes façons. Nous avons différents dons. Chacun de nous ne veut pas faire plus que l'autre. Chacun de nous se complète. Je ne veux pas prêcher comme pasteur Perron parce que c'est pas... Non. Je ne veux pas chanter comme Diane. Pas du tout. Mais nous faisons ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné, avec les forces que nous avons. Nous n'avons pas besoin de nous comparer. Pas du tout. Nous devons nous compléter en tant qu'Église. Nous devons être reconnaissants pour les dons que Dieu a mis dans notre Église. Lui rendre grâce pour ce que nous avons. Vous savez, lorsque vous sortez, vous allez dans d'autres églises, vous n'imaginez pas ce que les autres vivent aussi. Il y en a qui n'ont pas de pasteur. Il y en a qui n'ont même pas de communion d'hommes ni de femmes. Soyons reconnaissants pour ce que nous avons. Ce n'est pas parce que on fait des choses, on écrit, peut-être notre sœur Luciana va écrire des mots d'anniversaire, qu'on se doit faire pareil. Non, pas du tout. Mais c'est l'acte qui compte, c'est le cœur qui compte, c'est là où le cœur est. Ce n'est pas la quantité. Et c'est là où notre cœur est. Et c'est pour ça que nous devons rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons. Et tout au long de cette lettre, Jean ne cesse de pointer vers le Christ. Car Christ est à la fois la vérité de Dieu et l'amour de Dieu incarné. En lui, la vérité de Dieu s'est faite chair. En Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. » En lui, l'amour de Dieu s'est révélé dans la croix. En 1 Jean 4, verset 9, nous lisons, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions pour lui. » Que nous ne vivions pas pour nous, que nous vivions pour lui. Et c'est en lui que ces deux réalités se rencontrent harmonieusement. En Christ, la vérité et l'amour ne s'opposent pas. Ils s'unissent pour sauver le pécheur, mais aussi pour édifier l'Église. Frères et sœurs, que cette courte lettre, courte épître, nous appelle à vivre une foi qui est équilibrée. Une foi qui est ferme et tendre à la fois. Fidèle à la vérité dans la doctrine, fervent dans l'amour, dans la communion. Vigilant dans la foi face à l'erreur. Que chacun de nous, dans sa famille, dans son service, dans son témoignage, puisse marcher chaque jour dans la vérité et dans l'amour du Christ. Ainsi, notre joie sera parfaite. notre unité réelle. Et notre Église, un phare de fidélité au milieu d'un monde corrompu, au milieu d'un monde confus et au milieu d'un monde qui est individualiste. Amen.
Amen. Amen.
Prions. Seigneur notre Dieu, Dieu de bonté, Dieu de vérité, Dieu d'amour, nous te remercions pour ta parole, cette parole qui est suffisante pour nous. Nous te remercions pour la vérité de l'Évangile et pour l'amour de Christ qui nous unit. Seigneur, apprends-nous à marcher dans la vérité, à rejeter l'erreur, Seigneur, à aimer nos frères avec un cœur pur, mais selon tes commandements, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de garder notre Église, l'Église réformée baptiste de la Trinité, dans l'unité, dans la fidélité à ta parole. Préserve, Seigneur, nos cœurs de la tiédeur. Préserve nos cœurs, Seigneur, de la confusion de ce monde. Fais de nous un peuple à la fois ferme dans la vérité et rempli aussi de compassion, capable de refléter cette beauté, la beauté de ton Fils, dans ce monde, Seigneur. Que la grâce, la miséricorde et la paix, Seigneur, soient avec nous, dans la vérité et dans l'amour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre vérité, notre amour qui est parfait. Amen.